It is an honor for France, for the French people, and for me to be received in this sanctuary of democracy where so much of the history of the United States has been written.
Il avait raison sur un point, Emmanuel Macron. L'histoire des deux pays est intimement liée. La jeune Amérique, d'ailleurs, les jeunes États-Unis ont compté énormément sur l'appui de la France et de son siècle des Lumières. Mais cette fin de visite à Washington est assez troublante, dans le sens que les deux hommes n'ont pas arrêté de se manifester des signes de sympathie, Emmanuel Macron et Donald Trump. Mais Macron a été assez sévère sur les politiques de Donald Trump aujourd'hui devant le Congrès.
Sur le fond, Paul, parce qu'au niveau de la forme, là, tu parles de signes de sympathie. J'aurais presque le goût de te dire que ce qu'on a depuis trois jours, c'est pratiquement des signes d'amour.
Là. Mais c'est une bromance.
Une bromance assez intense. Là. Ceux qui n'ont pas vu les images, prenez quelques minutes de votre journée pour aller voir ça sur Internet. C'est incroyable. Là. Les bises, les câlins, les poignées de main. Je veux dire, mes meilleurs amis que j'ai depuis 20 ans, je leur ferais pas ça, sinon ils commenceraient à se poser des questions.
Et Donald Trump a même nettoyé l'épaule, oui. Le veston du président.
Parce qu'il y avait des pellicules. Oui. Et il voulait, selon les dires du principal intéressé, qu'il soit parfait. Écoute, c'est très spécial, mais il reste qu'au niveau du fond, tu as eu un discours qui ressemblait franchement, là, pratiquement, à une sortie contre Donald Trump de la part d'Emmanuel Macron devant les élus américains réunis dans la Chambre des représentants aujourd'hui. Je te donne quelques extraits, un en particulier. Macron dit, et je le cite, « C'est vous, vous étant les États-Unis, qui avez mis en place le multilatéralisme. C'est donc vous qui devez le préserver. » Et il enchaînait avec une ligne que je vais devoir dire en anglais parce que c'est vraiment ça qui va lui rendre sa justice. Il dit « We have to make our planet great again. » Ce qui est clairement une ligne, évidemment, empruntée à Donald Trump, « Make America great again », mais réappropriée pour lui donner un ton, évidemment, beaucoup plus multilatéraliste, mondialiste, et non pas protectionniste et isolationniste comme le discours du candidat puis du président Trump. Donc, tu as eu une série de lignes comme ça dans un discours assez long devant le Congrès. Donc, d'un côté, Macron qui clairement exprime sa gratitude d'être un chef d'État reçu d'une façon assez extraordinaire par le président Trump, à qui on donne une tribune aussi spéciale que ça de pouvoir parler aux élus du Congrès. Mais en même temps, sur le fond, le discours de Macron ne change pas, celui de Trump non plus, et il demeure un petit peu comme on s'en était parlé hier, qu'il y a des différends très importants, le plus important à l'heure actuelle étant le dossier du nucléaire iranien. On va s'en reparler.
Oui. C'est le 12 mai. La date, retenez cette date-là, 12 mai, là, apparemment, que les Américains disent on ne peut pas vivre avec l'accord obtenu par Barack Obama sur le nucléaire. Enfin, c'est ce que dit Donald Trump.
Mais rapidement, juste avant de passer au prochain point, Paul, pour finir sur une note plus légère et plus humoristique, le président Macron avait une autre ligne, encore une fois, assez comique dans le discours d'aujourd'hui. Il a relaté une histoire qui aurait eu lieu entre le philosophe français Voltaire et évidemment l'Américain Benjamin Franklin, un héros américain. Et apparemment, les deux hommes se seraient rencontrés et quand ils s'étaient rencontrés, ils se seraient serrés et même donné la bise. Et donc, Macron raconte ça devant le Congrès et il ajoute « Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? » Et donc, évidemment, tout le monde est parti à rire. C'était de bonne guerre.
Oui, voilà. Oui. Un tribunal fédéral américain déclare que le programme DACA, qui avait été lancé par Barack Obama, mais qui avait été freiné par Donald Trump et qui vise à protéger les immigrants clandestins déjà arrivés et installés aux États-Unis, doit être réinstauré et accepter encore de nouveaux applicants.
On parle des fameux « dreamers ». C'est qui ces gens-là? C'est les gens qui ont traversé, qui ont sauté la clôture en bon français là, de façon illégale alors qu'ils étaient mineurs. Et donc, ils sont aujourd'hui des immigrants illégaux, mais Barack Obama, lui, leur avait donné en fait un droit, si on veut, de rester aux États-Unis, même dans certains cas, d'appliquer pour des permis de travail. C'est un programme auquel le président Trump avait mis fin. Mais là, c'est le troisième tribunal fédéral. Et dans ce cas-ci, c'est un juge qui avait été nommé par le dernier président républicain, le président Bush, qui a dit « Non, vous ne pouvez pas mettre fin à ce programme-là. » Et non seulement il est légal, mais vous êtes forcé à d'admettre des nouveaux applicants.
Est-ce que tu penses que ça a une influence sur le flot de migrants qui se retrouvent ici illégalement au Canada?
C'est dur de le nier. Je ne vais pas jouer aux experts de la question migratoire au Canada, mais il reste que c'est assez immanquable que le problème, dans la mesure où on peut appeler ça un problème ou une crise, là, dépendant de la perspective, du côté canadien, est vraiment arrivé lorsque Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche et a commencé à essayer de serrer la vis à la frontière mexicaine. Donc, c'est assez difficile de ne pas voir un lien entre les deux. Là,
alors, élection spéciale en Arizona hier. Attendez, c'est une victoire républicaine, mais qui laisse présager une vague démocrate.
Intriguant, hein, Paul?
Oui, c'est intriguant.
J'avais laissé le petit teaser pour le tour de table tantôt. Écoute, c'est très simple, en fait. C'est qu'on a une circonscription électorale à la Chambre des représentants dans laquelle il y avait une élection, l'équivalent d'une élection partielle. Ce qu'on appellerait une élection partielle ici, c'est une élection spéciale aux États-Unis. Un siège qui est vacant, on le pourvoit hier. C'est une candidate républicaine qui gagne par 6 points. Or, voici la trappe. La circonscription en question avait été gagnée en 2012 par le représentant républicain qui était le prédécesseur de celle qui a gagné hier, par quelques 30 points de pourcentage. Donc, il y a eu une marge de victoire républicaine qui est passée, en fait, exactement de 28 à 6. Ça, si ce n'est pas un signe comme quoi il y a une sérieuse vague démocrate qui s'en vient dans les élections de mi-mandat de novembre prochain, je ne sais pas c'est quoi.
Ça sert
de baromètre. C'est parce que là, ça fait plusieurs, Paul, tu te rappelleras, on s'en est parlé tellement souvent de la fameuse victoire démocrate en Alabama pour le siège sénatorial. Là, tu as eu une victoire il y a quelques semaines en Pennsylvanie dans une circonscription qui était très pro-Trump. Et là, tu as une candidate démocrate qui vient chauffer une républicaine alors que ça ne devrait même pas être serré. On va avoir le temps de s'en reparler, c'est dans 6 mois. Mais c'est un autre signe comme quoi les démocrates sont positionnés, je te dirais présentement, pour, de façon réaliste, non pas seulement gagner la Chambre des représentants, mais potentiellement même le Sénat.
Le Sénat.
Je t'en parle pour la première fois. Imagine... aujourd'hui, c'est très possible que les deux chambres basculent en avant.
Essayons d'imaginer Donald Trump obligé de composer avec un Sénat à majorité démocrate et une Chambre des représentants. C'est... mais je pense que c'est arrivé à George Bush.
Qui avait perdu à l'inverse. Ouais. Et Clinton également. Ouais. Et Obama. Ils l'ont tous perdu.
Bush, il en faisait des cauchemars la nuit. Son adversaire, c'était Mme Pelosi.
Exact.
Nancy Pelosi.
Qui pourrait redevenir, d'ailleurs, la présidente de la Chambre, si les démocrates...
Les démocrates enragés, lui, évidemment.
Exact.
Qui subissait, disons...
Les foudres.
Les sautes d'humeur. Merci.
Oui. À demain.